Bonjour à tous, bienvenue sur AB Story. Vous écoutez AB Story, le podcast. Je suis Rama Likibi, éditeur audio pour la marque AB Story. J'ai le plaisir de vous présenter ce jour, pour la première fois sur AB Story, une nouvelle rubrique qui s'intitule Parole d'auteur. L'idée de Parole d'auteur, c'est justement de donner la parole aux auteurs des titres des livres audio de notre catalogue. L'idée aussi, c'est de vous permettre de faire leur connaissance, d'entendre les auteurs parler de leurs livres, de leurs récits, et je l'espère, de vous donner envie d'écouter leurs livres audio. Pour ce premier épisode, j'ai eu l'immense honneur de recevoir l'auteur Sonia Alain, auteur du livre La Promise du Viking, présent au catalogue d'AB Story, initialement publié chez les éditeurs Réunis, un roman historique que personnellement j'ai franchement adoré. J'ai aimé travailler dessus, j'ai aimé l'enregistrer. C'est un livre qui m'a réellement transporté dans l'univers des Vikings. C'est un livre que je vous recommande. J'ai donc réalisé une entrevue avec Sonia Alain il y a quelques jours. Entrevue que je vous propose de découvrir dans ce podcast. Alors installez-vous confortablement et si vous avez un casque, mettez-le. Sinon, c'est pas grave. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, un café, un verre de jus de fruits et profitez. Bonjour Sonia. Et merci d'avoir accepté cette invitation, cette entrevue.
Bonjour à vous, bonjour à tous aussi, puis merci pour cette belle invitation.
Avant d'aller en profondeur dans cette entrevue, Sonia, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Alors, je suis auteure depuis déjà 15 ans. J'ai toujours été une grande lectrice depuis mon adolescence et à un moment donné, j'ai eu le goût moi aussi de commencer à écrire des petites nouvelles et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des romans et ça s'est poursuivi c'est quelque chose que j'adore faire, autant lire qu'écrire. J'écris dans différents genres littéraires, donc j'ai des romances historiques, fantastiques, contemporaines un petit peu plus épicées, puis de l'horreur. Et donc c'est ça, j'ai un 23e roman qui sortira sous peu, puis c'est quelque chose que j'ai le goût de poursuivre encore pendant de nombreuses années.
Waouh! Sonia, vous avez 23 romans à votre actif.
Oui, en fait, j'ai la chance depuis environ 5-6 ans de pouvoir écrire à temps plein. Donc, c'est certain que ça aide beaucoup. Donc, je peux vraiment me concentrer, rentrer dans ma bulle, comme on dit, et me concentrer sur mon écriture. C'est ce qui me permet d'écrire 2 romans environ par année.
D'accord. Dans votre biographie, il est indiqué que vous avez vécu une partie de votre enfance au Cameroun, en Afrique. Est-ce que cette expérience a une influence sur vos écrits, dans vos romans?
Oui, en fait, ça a été très marquant, une époque marquante pour moi. J'ai eu mes 13 ans en Afrique. Donc, j'étais avec mes parents et on a vécu environ 8 mois. Donc, c'était suffisant. J'étais assez vieille pour me rappeler pour que ça ait un impact aussi sur ma vision du monde en général, ma sensibilité aussi à la réalité des autres peuples, autres que où ce que j'habitais moi-même au Québec. Donc, c'est sûr que ça l'a marqué beaucoup à ce niveau-là. Puis, dans le tome 2 de ma série d'amour et de haine, mon personnage est en Afrique. Puis, je me suis inspirée en fait de mon amour pour l'Afrique à ce moment-là, de certaines anecdotes aussi que j'avais vécues pour créer ce que mon personnage vivait à ce moment-là dans ce roman-là. Donc oui, ça l'a influencé mon écriture et aussi ma vision du monde.
Je vois. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire La promesse du Viking?
En fait, j'ai toujours été passionnée par l'époque viking. J'ai d'ailleurs suivi les séries Viking et Valhalla qui ont passé aussi à la télévision. Donc, c'est vraiment une époque que j'adorais déjà d'avance. Je m'étais dit un jour que j'écrirais un roman viking sur les Vikings, d'ailleurs, et lorsque Daniel, l'éditeur de Les Éditeurs Réunis, m'a contacté pour me demander si j'aurais le goût d'écrire un roman sur les Vikings, ben ça a été tout de suite un gros oui, c'était certain. Puis à la base, ça devait être un roman, donc La promesse du Viking. Puis par la suite, les gens ont beaucoup aimé, j'ai eu tellement de demandes que j'ai écrit un deuxième volet avec d'autres personnages et là, je me prépare aussi à écrire donc un troisième volet avec un troisième personnage également. Puis, donc, c'est ça, outre ma passion pour les Vikings, ben, il semblerait que dans mes ancêtres lointains, nous viendrions d'un groupe de Vikings. Donc, j'aurais appartenu à un certain peuple viking à un moment donné dans l'histoire.
Je vois, je vois. Bon, intéressant, intéressant pour les origines.
Oui, exact.
Alors, dans votre biographie, il est indiqué que vous êtes également conférencière, vous donnez des conférences. Donc, comment vous arrivez enfin, est-ce que vous arrivez à concilier du coup votre travail à plein temps d'auteur et les conférences que vous donnez? D'ailleurs, est-ce que vous en donnez toujours?
Oui, donc je fais encore beaucoup de conférences, salons du livre, en fait différents événements littéraires. Par chance, ces événements-là, règle générale, ont lieu le week-end. Donc, ce qui me permet d'écrire la semaine et faire tous ces événements-là le week-end. Ça se situe aussi principalement le printemps, l'automne. Donc, ça me fait des très gros printemps et des très gros automnes, des grosses saisons à ce niveau-là parce que j'ai peu d'arrêts, là. Donc, c'est pas presque du 7 jours sur 7. Alors, du coup, lorsqu'arrive l'hiver et l'été, c'est ouf. Ça me permet de respirer un peu. Mais ce sont des événements que j'aime beaucoup faire aussi parce que c'est ce qui me permet de rencontrer les lecteurs, d'échanger avec eux, de voir même mes collègues, de sortir un peu de ma bulle aussi parce que bon, lorsqu'on écrit, on est dans notre bulle aussi, on est dans notre monde. Donc, c'est un complément, tout ça ensemble, qui fait que je suis très occupée, disons, par moment dans l'année.
Oui, je vois. Pour aller plus en profondeur concernant la promesse du Viking, on a le personnage principal qui est Asa. C'est un personnage fort et un peu complexe aussi. Comment vous l'avez construit, comment vous l'avez imaginé, ce personnage de Asa?
Pour ma part, dans tous mes romans, j'aime créer des personnages féminins qui évoluent beaucoup durant l'histoire. Donc, souvent au début, on les voit soit un petit peu démunis, soit dans des situations plus difficiles, et on les voit prendre de l'assurance, prendre de la force, en fait trouver la force de surmonter les épreuves qui se dressent sur leur chemin. Au départ, lorsque j'essayais de voir avec mon personnage pour la promesse du Viking, en fait, j'avais eu un coup de cœur pour Lagertha Lodbrok dans la série Viking, qui est une femme guerrière, et ça a été vraiment mon déclencheur parce que je me suis dit à ce moment-là, oui, Puis lorsque j'ai fait mes recherches également, j'ai découvert aussi qu'il y avait des femmes pouvaient être également guerrières. Donc, ça a coulé de soi que pour moi, ce personnage-là, même si elle était prise au début dans des situations plus difficiles, tout ça, bien qu'elle viendrait par passer par-dessus ces épreuves-là et que son passé de guerrière l'y aiderait aussi beaucoup. Donc, c'est toujours un peu dans ce sens-là que je bâtis mes personnages féminins et j'ai souvent même des lectrices qui viennent me voir dans les salons du livre et qui me disent que tel personnage féminin dans tel roman les a aidés, elle, à traverser des épreuves, à passer outre, à trouver la force d'y arriver. Donc, pour moi, ben, en fait, c'est le plus beau des cadeaux aussi, là, lorsque j'ai ces confessions-là. Mais c'est un petit peu comme ça, donc, j'ai créé Asa aussi, là.
C'est très fort, ça, que vos lectrices puissent avoir comme ça, comme référence, votre personnage, une héroïne comme ça qui leur permet d'avoir une référence, en tout cas quelqu'un à qui servirait d'exemple.
Oui, en effet.
Et donc, la prémisse du Viking, l'histoire se déroule en grande partie au Groenland. Pourquoi avoir choisi le Groenland?
En fait, oui, le choix était assez particulier du Groenland. Mais donc, dans mes recherches, je voyais souvent, et j'en avais aussi entendu parler de Éric le Rouge. Et dans le cadre de mes recherches, je le revoyais là, apparaître dans différents livres que je consultais. Et ce que j'ignorais en revanche, c'est qu'il avait colonisé donc le Groenland. Et c'est là que je me suis dit, j'ai adoré cette idée-là. Je me suis dit que de cette façon, j'allais sortir aussi des sentiers battus par rapport aux Vikings, qu'on le voit souvent, soit qui attaquent la France, soit qui attaquent l'Angleterre, aux environs de la mer Baltique, tout ça. Puis je me suis dit, ah tiens, c'est différent un peu, on se retrouve complètement, on se déporte complètement autre part avec la colonisation, tout ça. Et ça pouvait me donner beaucoup de matière à écrire, et étant donné aussi qu'à un moment donné, je fais référence également au Vinland, parce qu'ils partent en fait du Groenland, puis ils découvrent un peu Terre-Neuve et le fleuve Saint-Laurent, tout ça, ben je me suis dit que ça ferait un clin d'œil aussi aux Québécois pour aller les chercher aussi, leur montrer un peu les racines vikings également.
Effectivement, oui, les Vikings, c'était de très grands explorateurs et ils ont colonisé ou conquis de nombreux territoires. C'est frappant de voir dans le récit comment il y a des similitudes en termes de conflits. Je pense notamment à ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, les tensions qu'il y avait déjà en l'an 985, entre ce qui était la Russie et ce qui était l'Ukraine, et qu'on retrouve en fait cet aspect-là aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025.
Oui, en fait, j'étais très surprise parce que lorsque j'étais en train d'écrire mon roman, s'est déclaré le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et donc Kiev, que maintenant on connaît très bien en Ukraine, pour en avoir entendu parler souvent. Et lorsque j'étais en train d'écrire, on est dans les années 985, donc très loin dans mon roman, et il y avait déjà un conflit, une rivalité entre Kiev et Novgorod appartenant à la Russe à l'époque. Puis, j'étais comme, mon Dieu, on est en 985 et aujourd'hui, on est en 2000, on a encore ces mêmes conflits-là. Donc, ça m'avait beaucoup marqué lorsqu'est arrivé ce conflit-là parce que j'étais en train d'écrire un peu à ce sujet-là aussi.
Oui, c'est terrible quand même que depuis autant d'années que ça continue. Mais
enfin, oui, exact.
Continuons dans notre récit. La promesse du Viking. Alors, comment avez-vous procédé pour faire vos recherches? En fait, comment vous procédez? Parce que le livre est très bien étayé, les détails sont précis. Voilà. Quelles sont les recherches historiques que vous avez fait pour ce livre?
Mais lorsque je fais des recherches, premièrement, je consacre toujours un mois complet, temps plein, à mes recherches. Je commence toujours un petit peu sur le web pour débroussailler le tout, trouver des points d'idées pour aller creuser plus loin. Et ensuite, je fais des recherches, qu'est-ce qui existe comme livre sur ces sujets-là. Et je peux vous dire que la librairie de mon coin est très heureuse de m'avoir comme cliente parce que je commande énormément de livres. Je pourrais aller à la bibliothèque, mais pour moi, c'est important. Je les commande parce que je vais surligner en jaune tout ça, je vais prendre des notes et je fais vraiment une recherche très poussée, très exhaustive pour aller chercher tout ce qui est possible en lien avec mes romans, de façon à ce que lorsque je m'installe pour écrire, eh bien, j'ai toute l'information et même au-delà de ce que j'ai besoin, puis de façon aussi à être le plus exact possible, parce que je ne suis pas historienne, mais j'essaie quand même d'être le plus près de la réalité possible lorsque j'écris mes romans.
Et c'est très important parce que ça donne un résultat dans le livre final qui est tout à fait intéressant. On est complètement emporté, on est plongé dans le récit. Les détails historiques sont là, ça rend l'histoire crédible. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu. C'est la scène, je vais pas tout dévoiler, mais avec l'ours.
Oui, ben j'avais fait des recherches, entre autres, sur cette scène-là, sur les attaques d'ours. Donc, c'est pour vous montrer à quel point je vais faire mes recherches là, vraiment très, très poussées lorsque j'écris mes romans, là.
En tout cas, ça se voit. Dans la promesse du Viking, est-ce que vous avez voulu, c'était volontaire de faire passer des messages? Notamment dans le caractère de Asa, dans les moments qu'elle traverse.
Non, c'était voulu pour moi, pour le personnage d'Aza. Je voulais montrer que, puis comme je vous dis, c'est pas mal comme ça dans tous mes romans, mais je voulais montrer que tout est possible, qu'il faut garder espoir, même dans les périodes les plus sombres, et même quand c'est difficile, il faut s'accrocher, on peut passer au travers un jour ou l'autre avec de l'aide. Donc, pour moi, c'est toujours important, comme pour Aza, d'être un personnage qui passe au travers de tous ces événements-là. Et même du côté de Gunvar, montrer que l'amour, c'est pas toujours aussi un fleuve tranquille. Parfois, ça peut être chaotique. Il faut s'accrocher, il faut surmonter les épreuves ensemble. Et l'autre message que je voulais montrer aussi dans ce roman-là, c'était souvent on associe les Vikings à des barbares sanguinaires et je vous dirais, c'est pas mal l'image qu'on a souvent. Et lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que cela. En fait, c'est un peuple pour qui la famille était extrêmement importante. C'était aussi des grands explorateurs aussi et qui avaient une culture vraiment très intéressante, là. Donc, c'est un petit peu tous ces messages-là que je voulais faire passer là, dans mon roman.
Oui, c'est vrai que les Vikings ont toujours eu cette image barbare ou d'homme dur.
Puis à la base, s'ils étaient aussi grands navigateurs et explorateurs, c'était qu'ils vivaient quand même dans des régions plus difficiles où il fallait survivre. Donc, ils cherchaient toujours des terres pour pouvoir à la base s'installer et créer d'autres peuples un peu partout, donc de pouvoir trouver des terres meilleures. Et le fait qu'ils soient aussi des hommes durs, tout ça, mais c'est parce qu'ils vivaient aussi dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement un environnement aussi facile qu'autre part là, dans le monde, là.
Alors, Asa, dans la promise du Viking, doit pendant une certaine période cacher son identité, ses origines, son statut même de femme en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Est-ce que vous pensez que cela arrive encore aujourd'hui à certaines femmes?
Oui, oui, malheureusement, je vous dirais, parce que il y a tellement de femmes encore aujourd'hui à travers le monde, dans les différentes sociétés, qui doivent dissimuler leur intelligence, leur aptitude, même atténuer leur personnalité sous peine de représailles. Donc, oui, on est en 985, quelque chose comme ça dans mon roman, mais malheureusement, c'est encore la réalité de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et ça, je trouve ça tellement dommage, là. Mais oui, c'est encore d'actualité, malheureusement.
Malheureusement, effectivement. Sonia, comment se passe votre processus d'écriture? Est-ce que vous avez une routine particulière, quelque chose voilà, qui vous permet de vous plonger dans l'écriture d'une nouvelle histoire?
Oui, en fait, j'ai toujours plusieurs idées d'avance. Un, pour laisser l'histoire mijoter en arrière-plan dans mon cerveau. Deux, pour pouvoir commander les romans d'avance. Donc, j'ai toujours une bonne idée de ce qui va venir dans les prochains romans, mais pour le processus lui-même de création, en fait, lorsque j'écris, j'aime beaucoup écouter de la musique en lien avec mon écriture. La plupart du temps, je vais écouter soit des bandes sonores de films. En ce qui concerne la promise du Viking, je m'étais procuré les albums de deux groupes, un qui s'appelle Skald et l'autre Wardruna. Donc là, on est vraiment dans la musique avec des chants vieux norrois, typiques, un peu viking, tout ça. Et ça me mettait vraiment là, totalement dans l'ambiance. Mon conjoint, au début, se demandait un petit peu qu'est-ce que c'était comme musique que j'écoutais, parce que c'est vraiment différent. Mais ça me permet vraiment, lorsque j'écoute ces bandes sonores-là ou ces groupes-là, de m'immerger complètement, un peu comme si je me retrouvais à ces époques-là. Donc, ça, c'est un premier temps. Et avant de commencer à écrire, je fais beaucoup aussi de recherches sur le web pour des images, parce que je suis une personne qui est très visuelle aussi. Donc, pour être en mesure de bien décrire les paysages, les scènes, tout ça. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de recherches, ne serait-ce que pour voir visuellement à quoi ressemble l'intérieur des maisons, tout ça, des vidéos aussi. Donc, ça m'aide beaucoup au niveau de ma description. Puis, c'est ça. Donc, pour ma part, comme je disais plus tôt, je vais écrire essentiellement la semaine du lundi au vendredi. Vraiment, les journées entières sont consacrées là, à mes romans, soit pour l'écriture, soit pour recopier mon texte à l'ordinateur, parce qu'il faut savoir que j'écris à la main dans des cahiers. Donc, il me faut recopier tout ça à l'ordinateur par la suite. Et aussi pour entretenir tout ce qui est les réseaux sociaux, répondre aux questions des gens. Donc, tout ça, là, je partage tous ces moments-là là, dans une journée. Là.
Oh! Je suis impressionné. En fait, vous faites réellement des manuscrits.
J'ai essayé d'écrire directement à l'ordinateur et non, c'était vraiment pas fameux. Donc, j'ai besoin d'avoir le crayon entre les mains. C'est toujours le même crayon mine que j'utilise depuis 15 ans. Donc, parce qu'il est d'une grosseur particulière et c'est parfait pour tenir dans ma main. Puis, c'est ça. Donc, j'écris comme ça. C'est plus facile pour moi. Et lorsque je retranscris le tout à l'ordinateur, eh bien, déjà, je fais une première, je retravaille le texte là, déjà une première fois là, lorsque je retranscris le tout. Mais j'ai mon doigté aussi. Donc, c'est plus facile pour pour retranscrire à l'ordinateur ensuite.
Oh, je suis impressionné. Comment avez-vous choisi le prénom de vos personnages et principalement le prénom de Asa?
En fait, j'ai un petit tic d'auteur qu'on appelle. Règle générale, tous mes prénoms féminins commencent par A. Donc, c'est toujours un peu un challenge de trouver des prénoms féminins qui commencent par A. Donc, je fais beaucoup de recherches sur les différents prénoms. À Asa, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait bien accroché comme nom. Et pour les prénoms masculins ensuite, ben, j'essaie de trouver un prénom qui va bien s'arrimer au prénom féminin. Et dans le cas de la promesse du Viking, étant donné qu'on a des noms vikings qui sont pas nécessairement toujours faciles à prononcer, ben, j'ai essayé de trouver un prénom masculin aussi qui se lirait bien pour les lecteurs. Donc, je voulais pas les lecteurs, les lectrices accrochent au prénom masculin à chaque fois qu'ils feraient leur lecture. Donc, je me disais, Gunvar, ça file bien, ça coule bien. Donc, puis ça, je trouvais que ça allait bien avec Asa aussi. Fait que c'est un petit peu comme ça là, que j'ai amalgué les deux prénoms.
Et est-ce que vous avez eu des difficultés ou ben, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour la rédaction de la promesse du Viking?
En fait, les difficultés que j'ai eues, c'était de trouver des noms de vieux norrois, des mots. Donc, je tenais vraiment à utiliser des termes dans le roman qui soient vraiment typiques de ces peuples-là. Donc, je vous dirais que ça a été vraiment à ce niveau-là, faire les recherches pour trouver les mots. C'est ça qui a été difficile. Et puis, en faisant ces recherches-là, par contre, j'ai été surprise parce que j'avais découvert, en fait, on emploie le mot viking, puis je l'ai quand même employé dans mon roman parce que c'est ce qu'on connaît tous, dans notre société, partout. Mais le mot viking n'existait pas, à l'époque viking. Donc, on disait les hommes du Nord. C'est vraiment un historien qui plus tard les a nommés vikings et on utilise beaucoup aussi le mot drakkar et c'était pas les véritables termes non plus à ces époques-là. Je me risquerais pas à les prononcer parce que c'est pas évident à prononcer aujourd'hui, mais dans mon roman, j'utilise vraiment des mots typiques de ces époques-là. Fait que ça a été vraiment de ce côté-là que ça a été plus difficile là, au niveau des recherches, tout ça.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est rentré dans le langage courant de parler de Drakkar, alors que dans le roman notamment, il y a plutôt les Knurr.
Oui, exact. Ça, c'était les Knurr, c'était pour les plus petits bateaux. Et les plus gros bateaux, là, je ne me risquerais pas à
Ah, moi
prononcer
non
le
plus, je ne vais
mot.
pas me
C'est
risquer
pas évident.
à prononcer.
Mais donc, c'est ça, c'était le Drakkar mais pour les noms des bateaux, ça, j'ai vraiment tenu à utiliser les véritables termes. Donc, c'est ça, c'était vraiment, j'ai trouvé ça intéressant lorsque j'ai découvert ces petites technicalités-là différentes, là, j'ai bien aimé.
Alors, maintenant venons à la version audio de la promesse du Viking. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
En fait, j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur aussi pour la prononciation de Stanina Bochelaire, c'est ça. Donc, j'ai adoré sa prononciation des prénoms. des mots du vieux narwhal. Ça, j'imagine qu'elle a dû faire des recherches pour avoir la prononciation exacte. Elle a dû aussi beaucoup pratiquer parce qu'elle est vraiment très bonne. Et ça m'a vraiment énormément plu. Aussi, le ton de sa voix, sa lecture, tout ça, j'ai adoré. J'ai vraiment, et je trouvais que ça donnait vraiment sens à mes personnages, à l'histoire, tout ça, là.
Dans la version audio, avez-vous une scène particulière qui vous a marqué ou que vous avez aimé?
Oui, on fait le chapitre 2. Ça se trouve dans le chapitre 2, c'est la scène où Gunvar réalise qu'il y a un passager clandestin qui se trouve à être une femme, Aza. Et je trouvais que ce passage-là était. J'aimais bien la façon dont c'était lu, c'était rendu, tout ça. On sent bien le flegme, ce que dégage Gunvar, la façon dont le ton de voix qu'il emploie pour aborder la fillette, tout ça, qui aide la passagère à demeurer clandestine. Et tout le contexte, vraiment, je trouvais que c'était bien rendu. On voyait bien enfin, on sentait bien le premier contact aussi avec Aza, l'état d'esprit de Gunvar, un peu son frère aussi, son ton de voix un peu moqueur lorsqu'il intervient. Donc, j'aime beaucoup ce petit passage-là là, dans l'audio. Et je dois dire aussi que, en fait, je trouve ça magique un peu. Tout le format audio comme ça de la promise du Viking, je trouve que, comment je dirais, ça donne une dimension différente qui nous rapproche presque de la cinématographie dans un sens. Donc, je trouve que c'est vraiment très agréable à écouter. C'est un peu un enchantement pour les oreilles, je dirais.
Moi, en tant qu'éditeur audio de la version de La Promise du Viking, ça me touche beaucoup ce que vous dites là. Merci. Est-ce que il y a une suite à La Promise du Viking?
Oui, en fait, c'est comme un deuxième volet. Donc, le roman est déjà paru, ça s'intitule L'étrangère. Et cette fois-ci, oui, on revoit un peu Gunvar et Aza, mais c'est principalement l'histoire cette fois-ci de Frodi, donc le frère de Gunvar. Frodi qu'on voit aussi quand même beaucoup dans La Promise du Viking, et bien dans le second volet, qui est l'étrangère. Et là, c'est son histoire. En fait, c'est lorsqu'il part pour Constantinople pour aller à la recherche d'informations. Ben c'est là qu'on est transporté là, dans cet autre volet-là.
C'est vrai que dans La Promise du Viking, sans tout dévoiler, mais il y a quand même un mystère qui est resté non résolu, notamment ceux qui ont fomenté l'attaque du début du livre. Donc, est-ce que ce mystère-là sera résolu dans le deuxième volet, L'étrangère?
Je vous dirais oui. Il va être résolu, mais un autre mystère va se créer. Donc, une autre aventure va se créer parce que je vais avoir aussi à travailler sur un troisième et dernier volet qui n'est pas encore écrit, mais qui va être cette fois-là avec Hallvard. Donc, lorsqu'on lit l'étrangère aussi, mais en fait, lorsqu'on a la promesse du Viking, on a l'histoire complète de Aza et Gunvar avec un petit mystère qui demeure en arrière-plan. Dans l'étrangère, on a la résolution de ce problème-là. Mais là, on a vraiment l'histoire complète de Frodi et un autre personnage féminin que je vous dis pas le nom, je vous laisse le découvrir. Et donc, à la fin de l'étrangère, j'ouvre une petite porte sur une petite intrigue et cette intrigue-là sera donc résolue dans le troisième volet avec Alvar, qu'on voit beaucoup Alvar, donc on va le voir beaucoup aussi dans l'étrangère.
Ça donne envie. Je vais voir avec les éditeurs réunis s'ils sont d'accord pour que AB Story puisse adapter également l'étrangère en livre audio.
Ah, ben, ça serait super. Mais ce qui est important de savoir pour les auditeurs et les lecteurs, c'est ça, c'est que je les ai vraiment conçus pour qu'on ait l'histoire complète du couple, des personnages dans chacun des tomes. Donc, même s'il reste un petit mystère, on a quand même. C'est parce que des fois, les gens sont pas, t'sais, savent pas trop s'ils veulent s'embarquer dans plusieurs tomes, mais ils ont au moins, comme la promesse du Viking, ils ont toute l'histoire d'Aza et Gunvald. Donc,
Alors, on peut donc recommander aux auditeurs de les lire de façon chronologique, même si ils peuvent lire indépendamment, mais voilà, on leur recommande de commencer d'abord par la promesse du Viking.
Oui. Oui, je le recommande parce que sinon on va avoir un petit peu, si on commence par l'étrangère, ben on va avoir comme le punch un peu de la promesse du Viking. Donc oui, on peut lire l'étrangère toute seule, oui, on peut lire la promesse du Viking toute seule, mais si on lit les deux, mieux vaut commencer par la promesse du Viking et ensuite y aller avec l'étrangère.
Bon, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à nos auditeurs ou vous voulez leur, qu'est-ce que vous voulez leur dire à nos auditeurs ou aux lecteurs de façon plus générale?
Je tiens toujours à souhaiter aux lecteurs, aux lectrices, un beau voyage dans le temps lorsqu'on plonge dans l'histoire de la promesse du Viking. Et n'hésitez pas à vous laisser séduire par leur histoire. Et c'est ça.
La promesse du Viking est un formidable roman historique. Et effectivement, on peut leur souhaiter vraiment qu'ils puissent se plonger pleinement à l'intérieur et vivre cette aventure avec Aza et Gunvar. Et vous verrez, encore une fois, on l'a dit là tout le long, mais il y a plein de détails historiques très précis. Et le livre est très bien écrit. Et vous verrez qu'il y a des sujets qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui étaient déjà abordés à cette époque-là.
Oui, puis c'est aussi une belle façon de découvrir l'histoire aussi, sans avoir à lire des romans historiques, des livres historiens, tout ça, qui des fois sont plus ardus à lire. Donc, c'est pour ça que j'essaie le plus possible d'être le plus exact possible pour vraiment permettre aux lecteurs et aux lectrices de découvrir ces époques-là et de façon très agréable et très facile aussi. Donc, de permettre de voyager vraiment dans le temps et comme vous dites, de découvrir en même temps, faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui et à l'époque, là. Oui.
Eh bien, merci Sonia d'avoir accepté cette entrevue avec moi pour les auditeurs d'AB Story.
Bien, merci à vous pour cette belle invitation, c'est super gentil.
Et j'aurai le plaisir de vous retrouver, j'espère bientôt, pour présenter aux auditeurs l'étrangère en version audio.
Mais ce sera avec plaisir.
Encore merci, Sonia, et je vous dis à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de notre rubrique « Paroles d'auteur ». J'espère que l'entrevue que vous avez pu entendre vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si le concept vous plaît, ben on en fera d'autres avec d'autres auteurs. Voilà. J'espère que j'ai pas été un si mauvais présentateur que ça. Et je vous dis à la prochaine.